Donc, nous sommes dans le livre de Daniel et puis je vais juste rapidement faire un rappel, pratiquement sur ce qu'on a pu retenir la dernière fois avant de partir, notamment à partir de la conclusion. Donc, nous avions vu que Daniel et ses amis ont été fidèles et fermes dans leurs convictions, puisqu'ils ont décidé de se mettre à part, de ne pas se souiller avec les mets du roi. Et puis par la suite, on a vu ce que Dieu a pu faire avec eux. Ils n'ont pas cédé à la tentation, c'est-à-dire étant dans la cour du roi avec il y avait tous les mets. Je dirais copieux, tout ce qu'on pouvait leur présenter, ils ont quand même décidé de s'astreindre et puis honorer Dieu parce qu'ils ne voulaient pas se souiller avec les mets du roi. Ils ont honoré Dieu et Dieu les a honorés aussi. Et leur position privilégiée dans un milieu étranger et dans l'Empire n'a pas été pour eux une source d'orgueil. Donc Dieu a pu les élever. Et puis dans les tests qui ont été faits, on a noté effectivement qu'ils surpassaient les jeunes gens de leur âge en sagesse, en connaissance, dans toutes les sciences qu'ils avaient pu apprendre. Donc Dieu les a élevés, ils faisaient donc partie des sages dans cette nation-là. Et puis, malgré effectivement qu'ils fassent partie des sages, cela, je pourrais dire, ne leur est pas monté à la tête. Ils n'étaient pas orgueilleux malgré tout, ils ont toujours maintenu leur relation avec Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons voir la suite avec Daniel, chapitre 2, du verset 1 au verset 49. C'est long, mais on va tout faire pour s'en sortir ce matin. Et puis, ce que je voulais dire au verset 1, on avait dit que au chapitre 1, on avait fait noter que Daniel était doté de dons d'interprétation des songes et des rêves. Donc, je le dis simplement pour qu'on puisse le garder en tête dans le parcours de l'étude que nous allons faire ce matin. Donc, Daniel chapitre 2, du verset 1 au verset 49. Donc, on voit le roi qui fait un songe et qui invite donc je dirais, ses spécialistes en la matière pour avoir l'explication et ça ne passe pas. La vision est révélée à Daniel, l'explication du songe aussi est révélée à Daniel. Et puis, par la suite, on voit donc la promotion de Daniel. Ici, donc, le roi va se coucher. Lorsqu'on lit le verset 29, on voit que le roi va se coucher en pensant à l'avenir. Et puis, c'est une chose qui est normale, tout à fait normale pour lui. Et il pense à ce qui adviendra par la suite. Donc, il est troublé par son songe et il a l'esprit agité. Donc, le roi convoque ses spécialistes en la matière pour avoir l'explication du songe. Donc, notamment, on a les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens. Ici, on nous parle de personnes qui étaient très sages, des devins qu'ils ont appelés ici chaldéens, ce qui n'a rien à voir avec le peuple chaldéen en tant que tel. Donc, tous ces sages du royaume sont convoqués par le roi pour avoir l'explication de son songe. Et ses conseillers font partie, donc tous ceux-là font partie donc des dignitaires de la cour. Et principalement, le roi pose deux questions. Notamment, il veut connaître son songe, et puis deuxièmement, il va avoir l'explication du songe. Et dans cette démarche-là, donc il y a, je dirais, un dialogue qui s'établit entre le roi et les Chaldéens, je dis les Chaldéens, et ses spécialistes, et les magiciens, les enchanteurs et tout cela, en fait, les sages du royaume. Mais à cette rencontre-là, quand même, Daniel et ses amis qui faisaient partie de ces sages-là n'étaient pas conviés certainement à cette rencontre particulière. Donc, le roi convoque effectivement toutes ces personnes-là qui sont censées expliquer ces songes. Donc, certainement que le roi a l'habitude effectivement de les convoquer pour certains songes, pour certains sujets. Et par rapport à leur spécialité, ils vont donner des conseils au roi. Et particulièrement ici, le roi est troublé dans son songe et veut avoir des explications. Lorsqu'il pose les questions, lorsqu'on regarde les versets 7, 4, 7, 10 et 11, il y a les requêtes des sages du roi et les versets 5, 8 et 9, les réponses du roi aux différentes requêtes que les spécialistes lui demandent. Donc, quel regard peut-on porter lorsqu'on porte nos regards sur ce dialogue-là? Quel regard pouvons-nous avoir des échanges entre le roi et ses conseillers lors de cette rencontre-là? Qu'est-ce qui ressort lors de cette rencontre-là?
Premièrement, tu sais, les Babyloniens, ils étaient très superstitieux. Ils étudiaient les songes, ils documentaient les songes, puis ils regardaient si ta vie, les songes étaient arrivés, puis ils faisaient comme un genre de mathématiques pointeuses, ce songe-là, c'est ça qui va arriver. Puis je pense que les autres, ils voulaient savoir ça. Il y avait aussi beaucoup de sorcellerie, puis d'esprit occulte. Une des vérités importantes qu'on voit dans ces versets 1 à 13, c'est que l'esprit occulte ne peut pas attaquer ce que tu penses dans ta tête. Fait que même si Satan essaie de rentrer, il n'est pas capable. Il n'est pas capable, même les esprits démoniaques n'est pas capable de comprendre. Puis Dieu n'a jamais révélé le rêve de Nebuchadnezzar à des sorciers, à des personnes qui songent des esprits occultes. Je pense que l'autre chose que tu vois, c'est le roi, il n'est pas content. il est frustré, il est fâché, il veut savoir qu'est-ce qui se passe, puis ses conseillers ne savent juste pas. C'est des charlatans. C'est Benny Hinn, là. C'est des menteurs, c'est n'importe quoi. Donc, le fait que le roi, je pense que Dieu a enlevé la mémoire du roi pour prouver qu'il est vraiment Dieu.
Eux de voir aussi que Dieu permet que le ménage se fasse parce qu'ils ont tout tué par après. C'est pas Daniel qui les a tués, c'est lui-même le roi qui a décidé de faire le ménage au sein de son équipe. Alors.
Maintenant, la question qui viendrait, est-ce que le roi avait réellement. Avait-il vraiment oublié le songe ou bien il voulait effectivement que. C'était un test pour eux. Il voulait les éprouver.
Ben, on sait qu'il est à la recherche de la vérité aussi, parce qu'à un moment donné, il a dit qu'il allait adorer le seul vrai Dieu. Il n'a pas resté entêté, en tout cas, quand on prenait la fin.
C'est ça. C'est-à-dire, quand on voit l'attitude du roi et des requêtes, ces magiciens et autres veulent connaître le songe et donner l'explication. Donc, le roi rétorque pour dire que c'est parce que vous voulez gagner du temps. Moi, je veux quelqu'un qui est capable de me donner le songe et de me l'expliquer par la suite. Donc, le roi, il se rend compte qu'effectivement, autour de lui, c'est peut-être de l'escroquerie qui se met en place, c'est de la supercherie qui se met en place. Donc, les sages avouent leur incapacité lorsqu'on lit les versets. Déjà, au verset 10, lorsqu'on le regarde, les sages disent au roi, mais on dit, les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. » Donc, ils avouent effectivement, comme Bach le disait, ils sont incapables d'aller en profondeur dans les pensées du roi. Donc, ils ne peuvent pas imaginer. Ils sont limités. C'est ça. Donc, non, ils sont limités en tant qu'humains. Donc, ils avouent ici. Ça prend de la divinité pour qu'on puisse donner le songe avant de l'expliquer. Or, si le songe était donné, chacun va aller avec ses suppositions et puis on avance et puis on attend que les choses se réalisent. Mais là, le roi, cette fois-ci, va à l'inverse. On dit, pour eux, seulement une divinité serait capable de faire connaître le songe. Et lorsqu'on regarde l'attitude du roi, le roi lui découvre qu'il y a une supercherie des sages. C'est leur incapacité. Ils veulent gagner du temps. Donc, il découvre qu'il raconte des mensonges et des faussetés. Et la sentence du roi est élargie à tous les sages, y compris Daniel et ses compagnons, bien qu'absents de la cour royale. Donc, on voit que le roi, il engage une sentence pour tous les sages. Ils ont fait périr tous les sages. En réalité, ils veulent gagner du temps, c'est des menteurs, et il veut donc se débarrasser de tous les sages. Donc, c'est alors que Daniel va pouvoir rentrer maintenant en ligne de compte. On pourrait dire, est-ce que Dieu a préparé les choses de la sorte? Donc, on voit derrière ça la main de Dieu. On a vu la dernière fois que c'était Dieu qui conduisait effectivement l'histoire. La question est-ce que le roi a vraiment oublié ou c'était un test? Parce que le roi, il dit, le rêve, il avoue, hein, que le rêve m'a échappé. Mais est-ce que si le rêve avait vraiment échappé le roi, est-ce qu'il serait toujours troublé? Est-ce que cela aurait été une préoccupation pour lui?
Il s'en souviendrait plus.
Il s'en souviendrait plus. On oublie, on passe à autre chose. Donc, selon moi, c'était un test. Moi, c'est ce que moi, je... C'était
si mon point de vue. Si on voit la main de Dieu qui force cet oubli-là, est-ce qu'on peut voir la main de Dieu qui force cet oubli, qui fait que sa mémoire s'efface, il ne s'en souvient pas pour faire éclater vraiment là-dessus Dieu-là?
C'est ça. Mais l'autre option derrière ça, on pourrait dire aussi que peut-être Dieu suscite dans le roi cette curiosité-là un peu poussée. Donc, on peut regarder les deux options. Est-ce que Dieu fait en sorte que le roi oublie pour donner gloire à son nom? Ou bien Dieu met dans le cœur du roi, effectivement, cette curiosité-là de pousser, d'aller à la pour investiguer auprès de ses magiciens pour effectivement faire le nettoyage, le balayage, comme il veut. Oui?
Une chose est certaine, c'est que c'était impossible pour les hommes de découvrir c'était quoi le rêve. Puis Daniel a su c'était quoi le rêve. Puis même les sages disaient acceptez Dieu.
C'est ça.
Dieu
n'habite pas sur la terre.
Il y a quelqu'un au nom de Dieu qui a trouvé la réponse.
C'est ça. Donc l'élément qu'on va c'est ça. L'élément qui ressort, c'est que effectivement les magiciens, tout, pour eux, on a vu leurs limites. Ok, dans la cour royale, le roi a vu la limite de ces magiciens jusqu'à dire bon, mais tout le monde est, on fait périr tous nos sages et tout.
Ouais, il devait savoir dans son cœur, il devait savoir. C'est un roi, il est intelligent, il sait que c'est des charlatans.
Juste un petit peu à côté là, mais la question est est-ce que nous autres, on peut assigner la signification à nos rêves. Et puis il y en a qui disent que oui. Moi, je pense que non, mais il y en a qui disent que oui. Je connais des chrétiens que ils se racontent leurs rêves, puis il dit, c'est quoi que ça veut dire, là?
Mais je vais dire ça encore. Moi, je vais toujours mettre ça dans le cadre de la souveraineté de Dieu. Pour dire, Dieu, il fait ce qu'il veut, quand il veut, et puis il est capable d'accomplir les choses comme il veut. Donc, il y a des aspects sur lesquels, quand on rentre, c'est des discussions, des débats, parce que les points de vue sont toujours divergents. Voilà. Donc, moi, je vais dire, ici, Dieu est en train de montrer sa souveraineté sur la terre, il agit comme il veut, et puis ce qu'il agit comme il veut dans ce qui ressort. On voit la limite de tous ceux qui devraient pouvoir donc expliquer au roi ses songes et tout cela. Et donc Daniel arrive, mais Daniel aussi n'est pas capable d'expliquer le songe du roi à première vue. Mais il mène une démarche. Et puis Daniel va s'appuyer sur Dieu pour pouvoir mener sa démarche. Or, lorsqu'on va lire, on va voir que nos magiciens qui venaient, ils vont s'appuyer sur eux, leurs connaissances, leurs capacités et tout. C'est pour cela qu'ils avouent, effectivement, qu'ils sont limités. Et puis, on ne peut pas, en un mot, ils disent au roi, on ne peut pas expliquer ton songe, on ne peut pas te le donner. En un mot, c'est ça.
Dans la fin du verset, chapitre 20, le texte nous dit qu'ils avaient le don, Dieu a donné le don de l'interprétation des songes. Puis là, moi, je pense, je vois aussi un peu l'humilité de Daniel,
oui.
Mais qui est le don. Mais il ne va pas, il s'en fâche pas, il ne part pas à l'explication du songe. Il va s'en remettre au Seigneur, il va vraiment chercher la volonté de Dieu, prier là-dessus pour que Dieu lui révèle le songe, alors qu'il y a un don déjà.
Tout à fait. Donc ici, on voit la démarche de Daniel. D'abord, quand on regarde la démarche de Daniel, sa démarche est d'abord auprès de Arioc, le chef des gardes. Celui à qui Dieu demande de pouvoir faire périr tous les sages. Le roi, c'est ça, le roi demande de faire périr tous les sages. Et puis deuxièmement, après la rencontre avec Arioc, il demande donc une audience avec le roi. Et la troisième démarche, il va s'unir donc avec ses frères pour prier, pour implorer Dieu. Alors dans cette démarche-là, ce qui va ressortir dans la démarche de Daniel, on a noté une démarche qui est prudente. Donc, Daniel va d'abord s'enquérir des nouvelles auprès de Arioc. Donc, discrète, sensée. Le texte nous dit qu'il mène une démarche prudente et sensée. Alors, donc, il cherche à comprendre ce qui se passe. Il va à la source de l'information. Il ne se limite pas aux rumeurs. Il valide l'information. Donc, il va valider l'information auprès de qui? Mais auprès de la source qui est Arioc, celui qui a reçu, effectivement, l'ordre de mettre en place la sentence. Donc ça, c'est la première démarche que Daniel fait auprès du chef des gardes. La deuxième démarche, il va demander donc une rencontre, une audience au roi. Donc la démarche, on voit l'humilité de Daniel en le faisant. Elle est rassurante pour le roi et pleine de foi et d'engagement. Mais on dit personne n'a pu expliquer les songes. Le roi demande à ce que tous les sages soient mis à mort. Daniel demande quand même à rencontrer le roi. Or, le roi a dit, les sages, vous êtes en train de gagner du temps parce que vous êtes incapables. Et malgré cette démarche-là, Daniel quand même demande une audience au roi.
Et une extension.
Et une audience au roi. Et par la suite, il demande à ce que le roi reporte son truc. Est-ce qu'on a des commentaires là-dessus?
Il pense à toutes les conflits raciaux entre les Juifs et les Babyloniens.
Tout à fait.
Il a dit oui à un petit jeune Juif, il a dit non, c'est propre, c'est Dieu qui a travaillé le cœur du roi.
Ah oui,
tout ça. De Dieu dans le cœur de Nebuchadnezzar.
Amen. Donc, on voit comment Dieu travaille le cœur du roi, il façonne le cœur du roi. Et puis, on voit la sagesse de Daniel. C'est-à-dire déjà dans les premiers passages, dans son approche avec même celui qui se chargeait de leur apporter la nourriture, tout cela, il ne va pas, mais il va humblement et puis il va s'enquérir. Alors le roi donne donc à Daniel l'opportunité de pouvoir reporter la sentence. Mais ce qui est frappant, lorsque la sentence est reportée, et on regarde un peu l'attitude de Daniel. On dit, à partir du verset 17, « Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. » Donc, Daniel il a le report, effectivement, de la sentence. Le roi lui dit, ben, « Ok, vas-y, mais moi, ce que je veux, c'est l'explication. » Mais Daniel a cette approche-là parce que sa vie est aussi en danger. Non seulement lui, mais tous les sages. Non seulement lui, mais les autres frères aussi, leur vie aussi est en danger. Alors, il va demander à ce qu'ils se mettent ensemble pour prier. Les magiciens l'avouent, nous, on est humains, on ne peut pas le faire. Ça prend quelqu'un, ça prend Dieu, au fait. Mais comme ils ne croient pas au Dieu de Daniel, ils ont leur Dieu, leur divinité, leurs invocations. Donc, ils vont le faire. Cela nous rappelle un peu Pharaon, Moïse et Pharaon aussi dans leurs actions. On dit, Moïse fait, Pharaon appelle ses magiciens. Ils font pareil. Il dit, mais mon Dieu fait, toi ton Dieu fait. Moi, je pense que, mais faut une force supérieure, une capacité au-dessus. Et puis, si leur limite est montrée. Donc, dans la démarche de Daniel, on voit que Daniel, effectivement, se dit, moi, j'ai le don d'interprétation. Il aurait pu dire, ah, ok, Dieu m'a doté de capacité d'interpréter des rêves et des songes. Je vais me retirer, prier pour que Dieu me révèle. Mais là, il a besoin d'une intercession commune. Il a besoin qu'on se mette d'unité dans la prière. Donc, il va chercher ceux avec qui il se tient dans la prière pour invoquer Dieu. Donc, il montre ici leur dépendance de Dieu. On voit qu'on nous spécifie la classe des intervenants. On nous parle des magiciens. Donc, eux, ils vont venir avec leur art magique. On nous parle des astrologues. Eux, ils vont faire leur lecture, je ne sais pas quoi. Alors, on nous parle des Chaldéens qui étaient des sages aussi, mais poussés dans certaines divinités. Eux aussi, ils viennent avec leur pratique. Donc, imaginez le chaos qu'on pouvait... Il dit, bon, astrologue, venez rien. Magicien, venez rien. Bon, vous, les Chaldéens, là, avec vos divinités... Ben, pour finir, le roi dit, mais qu'est-ce qui se passe? Daniel, quand il reçoit ça, quand il va auprès du roi. On voit, on a parlé de son humilité, on a parlé de l'unité dans l'intercession avec ses frères aussi, qui était très important. Mais au-delà de tout, il demande d'implorer Dieu. Donc, c'est-à-dire, ils dépendent de Dieu, ils montrent leur dépendance de Dieu. Quelle que soit leur position, là, quand même, dit, ah, on dépend de Dieu. Et puis, Dieu fait grâce aux humbles. Il fait confiance à un Dieu qui répond. C'est-à-dire, quand il approche ses frères, il leur dit... On dit, au verset 18, on nous dit, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Donc, il se dit que le Dieu miséricordieux est capable de répondre et de donner effectivement l'explication des songes. Et avec son expérience, vu qu'il a le don, il sait que ce qu'il possède, c'est Dieu qui donne. Donc, Dieu est capable de révéler les secrets. Donc, Daniel... Après son rendez-vous, son audience avec le roi, rencontre ses frères et se met à prier pour intercéder. Et Daniel va rendre grâce à partir du verset 23. Au verset 19, on nous dit, « Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit le Dieu des cieux. » Donc du verset 20 au verset 23, on va voir que Daniel vient rendre grâce effectivement pour ce que Dieu a révélé. Dieu a révélé les choses cachées. Dieu révèle ce qui est caché. Et dans ce que Dieu révèle, Daniel, dans son action de grâce, va reconnaître que Dieu est éternel. Donc, il existe par lui-même, pas de début ni de fin. Il va reconnaître que Dieu est omnipotent, donc tout puissant. Il est souverain et il dirige l'histoire. Donc, Daniel va reconnaître effectivement que Dieu connaît toutes choses. Il sait tout. Il est la source de toute sagesse, comme Marc vient de le dire. Donc, Dieu est la source de toute sagesse. Même l'explication des songes sont la source de Dieu. Alors, donc, Daniel donne toute la louange et la gloire à Dieu et reconnaît que tout ce qu'il possède vient de Dieu, que ce soit la sagesse, que ce soit l'intelligence, que ce soit la révélation de ce qui est caché, parce que c'est ce que le roi voulait. Donc, il sait que cela vient de Dieu, cela ne vient pas de lui. Et puis, il rend donc gloire à Dieu pour cela. Alors, lorsque Daniel, après la prière, à l'unisson avec ses compagnons, à la révélation, il va reprendre donc contact avec le chef des gardes, Arjok, pour deux choses. D'abord, il va lui demander de ne pas faire périr les sages. Et la deuxième chose, il va demander à Arjok de le conduire auprès du roi pour l'explication du songe. Mais imaginons, dans le royaume et déjà dans le cœur d'Arjok, même quand on lit le texte, quelle joie débordante vient et puis quelle assurance avec laquelle il va vers le roi pour dire au roi, j'ai trouvé celui qui peut expliquer, non seulement donner le songe, mais qui peut l'expliquer. Et Daniel en présence du roi. En présence du roi, la demande de Daniel est surnaturelle. Du moins, la demande du roi. Daniel va effectivement montrer au roi que sa demande est surnaturelle. Donc, Daniel ne dit pas le contraire que ce que les magiciens avaient dit. C'est-à-dire, un homme ne peut pas expliquer, mais c'est un Dieu qui peut expliquer. Daniel le dit, il le dit d'une autre façon, mais c'est ce que Daniel est en train de dire aussi. Et donc, elle est surnaturelle parce qu'elle concerne effectivement les choses à venir. Mais pendant que Daniel arrive au verset 27, Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les 27 ne sont, et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. » Donc, c'est les mêmes choses que les autres ont dit. On est sage, on est intelligent, mais on n'est pas capable de le révéler au roi. C'est pas vous commentaire là-dessus. C'est bon. Au verset 28, nous sommes dans les derniers temps et dans le temps de la grâce. C'est bon?
Ouais.
Nous sommes dans les derniers temps et nous sommes dans le temps de la grâce. C'est-à-dire, c'est là, c'est dans le temps de la grâce que Dieu va encore chercher, Dieu va encore sauver. On dit, tandis que le roi porte ses regards sur Daniel, parce que là, le roi attend que Daniel lui donne les explications. Mais il voit en Daniel quelqu'un qui vient avec toute une puissance, toute une capacité. Mais pendant que lui porte ses regards sur Daniel, mais Daniel va orienter les regards sur Dieu. Parce que le roi dit, mais est-ce que tu es capable de m'expliquer le songe? Daniel dit, oui, je viens pour expliquer le songe. Mais celui qui explique le songe en réalité, ce n'est pas moi. Comme tes devins l'ont dit, tes sorciers, tes magiciens te l'ont dit, tes sages te l'ont dit, je ne suis pas capable d'expliquer. Mais il y a dans le ciel, le verset 28 m'a tellement touché, il dit, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Amen. Donc, on voit comment Daniel oriente les regards du roi vers Dieu. À la place de Daniel, certainement, j'aurais pris les glorioles. Hein. Mais Daniel, il nous montre comment son humilité, comment orienter les regards de ceux qui sont autour de nous vers Dieu. Et cela doit pouvoir nous interpeller, c'est-à-dire dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on peut entreprendre, c'est-à-dire orienter les regards vers Dieu et non vers nous. Orienter les regards vers Dieu, c'est ce que Daniel fait. Il oriente donc les regards du roi. C'est vrai, roi, vous me faites confiance. Vous avez foi que je vais expliquer le songe parce que je peux l'expliquer maintenant. Mais en réalité, je peux l'expliquer parce que derrière ça, il y a un Dieu capable, un Dieu qui répond, qui a révélé cela. Donc, Daniel, oui. Donc, on nous voit ici, Daniel décrit le songe à partir du verset 31. Donc, on voit comment Daniel tourne les regards du roi vers Dieu avant de décrire le songe de Nebuchadnezzar. Donc, du verset 31 au verset 35, on voit le songe qui est décrit. Et ici, dans ce songe, on a deux scènes qui se passent. On a deux scènes. La première, c'est qu'il y a la statue. Donc, Daniel décrit effectivement le songe de Nebuchadnezzar, statue immense, faite de différents matériaux, notamment métaux, de la tête aux pieds. Donc, c'est une statue d'homme, d'humain, si vous voulez. Et puis, donc, de métaux, de la tête aux jambes, et puis de métal et d'argile au niveau des pieds. ben, de différents types de qualités.
Et
la deuxième scène, donc, c'est la pierre qui détruit donc ces statues-là. J'avoue que cette dernière partie, j'avais vraiment de la difficulté à agencer mes recherches, mais c'était un peu trop long quand même. Donc ensemble, on va en parler. Donc l'explication, donc les différentes parties de la statue représentent les différents royaumes qui vont se succéder. Donc Daniel donne l'interprétation maintenant au roi. Donc voici le songe que tu as eu, mon roi. C'est une statue et puis immense, avec les différentes parties qui étaient en différents types de métaux et tout. Et puis à la fin, on se rend compte qu'il y a une pierre qui est venue détruire cette statue-là. Certainement, c'est la pierre qui est venue détruire la statue qui a créé le trouble dans le cœur du roi, parce qu'il dit, ah, mais j'ai une statue immense, peut-être que c'est moi. Et puis, subitement, tout s'écroule.
Ben, je pense qu'il y a une couple d'affaires sur la vision.
C'est ça, ouais.
Si on regarde la balance des matériaux, là, vous avez une confidence sans moi, mais ouais. Or, c'est beaucoup plus que de l'argent, beaucoup plus que tu descends en valorisation de métaux importants. Là. Je pense que deuxièmement, l'or est plus lourd que de l'argent, l'argent est plus lourd que le fer. Soit en position de poids, c'est plus haut ou plus bas. C'est ouais. Vraiment que ça s'effondre tout seul. Un peu, là, jusqu'à temps que tu arrives au pied, jusqu'à temps que tu arrives à le roc, pour détruire tous les royaumes. Tu sais, tu vois vraiment du haut, du bas, ça suit une queue. Il y a une couple d'affaires. Tu sais, mon attaque toujours la Bible incluant le livre de Daniel. Puis Isaac a fait allusion quand il a commencé son texte à ce moment-là. C'est pas des forts. Dieu a révélé ça à Nebuchadnezzar. Puis c'est vraiment arrivé.
C'est la vérité.
Et Daniel n'a pas été écrit 165 ans avant la venue de Jésus-Christ, comme beaucoup de théologiens libérales veulent dire. Ça a été écrit par Daniel à l'époque de Daniel. C'est dur à accepter pour certains, mais ce n'est pas des fables. Jonas, ce n'est pas un fable. C'est vraiment arrivé.
C'est l'histoire.
Et l'accomplissement des prophéties est un des signes les plus importants qui affirme que la Bible est vraie et que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu. Puis on ne peut pas dire que ça ne peut pas être ça, mais c'est ça, puis c'est arrivé. Il y a eu quatre nations qui ont été élevées par Dieu, immorales, mais par Dieu. Pourquoi? On ne sait pas. C'est en plan de Dieu.
C'est ça.
C'est pas des charlatans, c'est vraiment arrivé.
C'est ça. Et puis pour ajouter à l'historique, c'est des choses qui se sont réellement passées. Ces quatre royaumes-là, comme Daniel a décrit, ça s'est succédé effectivement. Dans l'histoire, ça s'est accompli. Dans l'histoire, ça s'accomplit. Ça vient confirmer effectivement que la parole de Dieu est la vérité. Et elle est vraie. Amen. Donc, la première partie, donc Daniel explique, il dit, mais la tête est en or. Et la tête en or représente le roi Nebuchadnezzar lui-même et son royaume. Donc, le royaume de Babylone. Et comme Marc l'a souligné, c'est-à-dire quand on regarde les différents métaux, ça part de la valeur la plus haute. Et ça se dévalorise jusqu'à l'argile. D'abord au fer, avant d'arriver à l'argile qui était un autre matériel qui était utilisé. Donc la poitrine et les bras en argent, c'était le royaume Médomers. Quand on va continuer dans l'étude, on va le voir. C'est-à-dire dans Daniel, à partir du verset 5, on va voir que le royaume de Nebuchadnezzar va passer. Et puis les Perses vont prendre le pouvoir. J'étais dans le champ. Voilà, d'accord, c'est bon. C'est bon. Donc, on va voir ventre et les cuisses en bronze. Ça, c'est l'Empire grec qui va aussi, après l'Empire médo-perse, la Grèce aura donc cette domination-là. Et par la suite, ça va être l'Empire romain. Mais à ce niveau, certains commentateurs vont l'étendre jusqu'à aujourd'hui, pour dire effectivement. Mais j'ai pas voulu rentrer dans toutes ces démarcation là, et puis pour nous permettre d'avancer tranquillement, de peur d'être trop long. C'est bon? Donc, déjà, on va voir la dureté. Quand on va prendre l'or jusqu'au fer, on va parler de la valeur, de la qualité. Donc, on va monter. Mais quand on va prendre la dureté, on va parler de la dureté du royaume, de la puissance aussi du royaume, mais on va voir que le fer, en même temps qu'il est dévalorisé lorsqu'on regarde les valeurs, mais selon la dureté, on va voir que le fer est plus solide et plus dur que le fer, que par exemple que l'or, je vais dire. Mais le quatrième royaume, le quatrième royaume sur lequel il y a beaucoup de détails qui sont donnés. Ce royaume-là, il a une fragilité. Il a une fragilité parce que c'est les pieds, on nous parle d'argile et de fer. Or, l'argile et le fer ne peuvent pas être alliés ensemble. Donc, ça va créer la fragilité, effectivement, au niveau de ce royaume-là. Il est puissant, mais il est fragile. Donc, ça sera le quatrième royaume dont on va parler. Okay, dont Daniel parle. Donc, Daniel décrit effectivement la suite de l'histoire après Nebuchadnezzar. Mais Nebuchadnezzar devrait être rassuré, effectivement. Il dit, « Ah, moi, je suis là. » Et il était tout puissant aussi, Nebuchadnezzar. Donc, Daniel interprète ces songes-là. Et la deuxième scène, on voit cette statue géante grande qui est là. La deuxième scène, il y a une pierre qui vient, effectivement, on ne sait d'où elle sort. Elle vient et elle renverse effectivement cette statue-là. Donc Daniel montre effectivement que cette pierre vient annoncer le jugement contre ces royaumes. Et la pierre devient donc une grande montagne qui représente un autre royaume. À la différence des autres royaumes, ce dernier royaume-là sera éternel. Il est non seulement éternel, comme une montagne, ce royaume est solide, stable, ne peut pas être ébranlé. Et la destruction de la statue, elle se fait de façon soudaine, brusque, et puis, je dirais, sa destruction est aussi immédiate. Mais avant cela, pour parler de la pierre est assimilée donc à Christ. Hein? La pierre est assimilée à Christ et au jugement final qui va arriver, où tous les royaumes, je dirais les royaumes terrestres, quel que soit leur pouvoir, leur capacité, leur force, ne pourront pas résister effectivement à ce jugement-là.
Je pense qu'il y a une courbe d'affaires quand tu vois ça.
Oui, allez-y.
L'Empire romain est à sa fin, quand tu vois le mélange
de ça, pierre et...
Je crois qu'il y a une autre nation européenne qui va remonter et prendre force, mais une des choses que je vois, c'est que Dieu va détruire les nations.
Les nations, c'est
Dieu
ça.
Dieu va détruire la démocratie. Dieu va le détruire, il est plus fort que ça. Le jugement de Dieu est plus fort, il condamne la terre, ça va aller de terre en pire. Mais il est plus fort, il ne faut jamais, comme homme, penser au-dessus de ça. Il faut se concentrer sur bâtir le royaume de Dieu. Je ne crois pas dans un chrétien nationaliste. Je pense qu'il peut être chrétien et nationaliste, mais chrétien nationaliste, c'est difficile parce que le royaume de Dieu, c'est ce qu'il faut se concentrer à bâtir. Pas la démocratie, pas le Parlement canadien. Il faut se concentrer sur le royaume de Dieu. Puis c'est là où la prédication claire de l'Évangile est nécessaire de l'Église versus la justice sociale. Parce qu'on ne va jamais améliorer.
Tout à
Dieu
fait.
Va juger le Canada. Il y a le seul jugement, mais Dieu va juger la démocratie. Puis il va détruire notre nation un jour. Toutes les nations, tous les royaumes ont tous été détruits. C'est une question de temps avant qu'on est plus puissant et que les choses vont moins bien. Oui.
Tout à fait. Parfait. Donc, ici, on voit effectivement que le jugement de Dieu viendra. C'est-à-dire toutes les nations, tous les peuples seront appelés en jugement. Donc, quelle que soit l'autorité, quelle que soit la force, la puissance des nations, la puissance des dieux, tous vont passer au jugement de Dieu. Et puis, ça va arriver de façon brusque, soudaine, comme la pierre est venue frapper soudainement la statue pour l'ébranler. Donc, le roi reconnaît que Daniel est un prophète. Donc, Daniel reçoit les paroles de Dieu et puis il est capable de le dire. Parce que Daniel a été capable, effectivement, de donner l'explication, de donner le songe avant de l'expliquer. Le roi glorifie Dieu et reconnaît qu'il est au-dessus de tous les dieux. Donc, le roi reconnaît que le Dieu de Daniel est au-dessus de tous les dieux. Alors, qu'est-ce que le roi va faire? Le roi, donc, Daniel est promu chef suprême des sages. Parce qu'il a été celui-là même qui a été capable d'expliquer, de révéler le songe et de l'expliquer. Donc, on voit comment le roi est marqué. Donc, il va positionner Daniel dans son royaume au-dessus de tous les sages. Et Daniel reçoit le commandement de la province de Babylone. Donc, il a un commandement qu'il doit gérer. Du moins, c'est une province qu'il doit gérer. Et Daniel plaide auprès du roi pour associer ses trois compagnons à la gestion de la province de Babylone. Quelle attitude on peut... Je veux dire, quand on regarde l'attitude de Daniel par rapport à tout cela et ses décisions qu'est-ce qu'on peut dire de son comportement par rapport à de Daniel? C'est-à-dire, il n'est pas défaitiste. Hein? Et puis, n'oublions pas les origines de Daniel et puis là où il se trouve. C'est-à-dire, il est sur un sol étranger. Dans la cour du roi, sur un sol étranger. Mais c'est là que Dieu l'utilise pour donner gloire à son nom. C'est ça. Donc, Daniel se rend compte qu'il ne peut pas faire toute ce l'œuvre, avoir le commandement de Babylone. Donc, il demande l'aide de son compagnon. On nous dit, il plaide auprès du roi. Donc, on voit que Daniel va chercher sa force dans l'Éternel. Donc, c'est en Dieu qu'il va mettre sa confiance pour que tout se déroule. Et là, même quand il reçoit la position de commandement de Babylone et puis chef suprême des sages, Daniel a toujours espérance en Dieu. Donc, on voit ici l'unité, et puis Daniel cherche des personnes qui vont l'aider dans le service, dans le ministère, pour avoir un impact, effectivement, là où ils sont. C'est-à-dire discrets, mais efficaces dans leurs actions. Mais Daniel avait besoin aussi de personnes de confiance. Il avait besoin de personnes. Moi, je l'ai noté ici. Il veut des personnes de confiance qui ont la crainte de Dieu. Parce que, on l'a dit tantôt, Babylone, c'était un centre, je dirais aussi, un centre mystique, hein? Un centre de magie aussi. Mais Daniel avait besoin aussi de personnes avec qui il allait gouverner Babylone. Parce qu'il y a le témoignage qui était important. Et il ne pouvait pas s'appuyer sur...
C'est ça. Un chrétien qui reçoit une promotion, il devrait l'apprendre. Parce que l'influence qu'il peut avoir dans son département, s'il est gestionnaire du magasin, gestionnaire du département, il peut protéger les croyants dans ses unités d'affaires. Puis Daniel, il peut dire, oh, non, je ne veux pas la promotion. Il l'a pris. Là. Je pense que l'influence chrétienne dans un monde séculier
est importante.
Il ne faut pas dire, oh, non, tu sais, si Dieu t'a donné la capacité de le faire, tu devrais le faire. Parce que l'influence que tu peux avoir sur les autres, sur ton département, sur les autres affaires, tu peux avoir des répercussions bonnes pour les non-croyants, mais les croyants aussi. Tu peux rendre l'organisation une bonne place pour les croyants à travailler.
Amen. Donc, on voit ici qu'on a dit que c'est une promotion. Hein. On dit qu'il est élevé au-dessus de tous les sages. Mais imaginez-vous même la jalousie qui va naître par la suite. Mais il a une position. Mais il dit, c'est vrai, merci mon roi, j'ai cette position-là, mais je vais t'accompagner. Il veut plaider, il plaide pour que ses compagnons soient avec lui. Voilà, Dieu est capable. Parce que, c'est-à-dire quand on prend la situation de Daniel ici, mais on nous parle de magiciens et autres, mais il y avait des mots aussi, hein. Il y avait des mots qui étaient là. Mais comme on l'a dit tantôt, Daniel a accepté cette promotion-là parce que fallait que Dieu se glorifie. Voilà. Donc même quand nos pays sont, je dirais, dans le désastre possible ou impossible, mais Dieu est capable. Voilà, si Dieu le veut, c'est ça. C'est pas fortuit que Daniel ait demandé au roi, ait plaidé auprès du roi pour qu'il puisse positionner ses hommes à ses côtés. Et puis je suppose que là où il les a positionnés, Daniel les a mis dans des endroits clés d'intendance là, de Babylone. Mais avant cela, il y avait certainement des personnes qui étaient là. Mais
c'est pas fini.
C'est pas fini. C'est ça. C'est pas fini. C'est ça. Donc Dieu positionne. C'est ça. C'est ça. Ça commence. Mais donc Daniel va positionner effectivement ces gars parce que c'est pas facile. Il est conscient que c'est pas facile. Il est conscient que c'est pas facile. Mais il plaide pour. Il plaide. Hein? Cela nous ramène un peu quand on pense à Joseph aussi. Ben, le gars, il sort de prison, il est positionné, bombardé. Mais ça prend effectivement la grâce de Dieu. Donc, c'est vraiment la souveraineté de Dieu dans l'histoire des peuples, dans l'histoire des nations. Et puis, Dieu est capable d'organiser les choses véritablement comme il le veut et comme il le sent. Daniel, dans son petit endroit, je vais même sortir de Daniel, mais le chrétien, même dans son petit endroit, là où il est dans sa position ou dans son poste, je dirais, être un petit Daniel devrait même être un petit Daniel. C'est-à-dire que ce soit dans nos structures, pas forcément dans la gestion. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, mais là où vous êtes, parmi les non-croyants, mais agissez, imitez-moi, agissez, de sorte que le jour où Dieu les visitera, ils puissent glorifier le Seigneur. Donc, c'est un peu ça.
Comme il a fait à Gédéon, puis il a fait à Jonas.
À Jonas, c'est ça. Donc, Dieu est capable de visiter. Donc, la parole de Dieu est vraie. C'est-à-dire, elle est la vérité, comme on a dit. Ce n'est pas une fable, comme on l'a noté tantôt. Et puis, Dieu a révélé à Daniel sa parole. C'est cette parole-là que Dieu a communiqué. Du moins, Daniel a communiqué au roi. Donc, Daniel n'a pas douté lorsqu'il a reçu l'explication de Dieu. Donc, lorsqu'il a reçu la parole de Dieu, il n'a pas douté. Donc, il avait foi. Il avait foi, effectivement. L'histoire est entre les mains de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui conduit son histoire. Et puis, pour nous, on dirait soyons encouragés parce que Christ a vaincu les oppositions. Hein? Toutes les barrières, Christ les a vaincues. Et Marc 13, 32, il dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, parce que Daniel parlait de l'avenir. Voilà. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Amen. Mais ce temps viendra. Hein? Ce temps viendra. Donc, comme la pierre qui allait frapper la statue, on dit tous ces royaumes ne savaient pas, mais la pierre est quand même venue. Amen. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Quelqu'un va prier et puis...